Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Alléluia, assumpta est Maria in celum. Alléluia, Marie est montée au ciel. Mes très chers frères, quelle joie, quelle allégresse pour le peuple chrétien en ce jour de célébrer l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu. Cette Mère de Dieu, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscitée, qui est montée au ciel dans son corps et dans son âme, jouissant d'une félicité éternelle, propre à la Mère de Dieu, mais aussi gage supplémentaire de notre résurrection et de notre gloire. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, notre espérance est vaine. Et non seulement il est ressuscité, mais il a fait monter aux cieux sa bienheureuse mère, à laquelle il a fait bénéficier d'une anticipation de la résurrection de la chair et de la glorification. C'est normal, c'est sa mère, elle devait être glorifiée après la vie qu'elle a eue, une vie qui a été une vie admirable, toute divine, toute d'humilité et toute de soumission à Dieu. Si nous voulons ressusciter comme elle et monter au ciel pour jouir à jamais de ce Dieu que nous aimons tant, eh bien nous devons justement aimer Dieu en toutes choses et par-dessus toutes choses, obéir à ses commandements et persévérer jusqu'à la fin avec l'aide de sa grâce. Nous avons, mes très chers frères, plusieurs choses à voir aujourd'hui. Premièrement, comment Judith est la figure de la Bienheureuse Vierge Marie qui annonce dès l'Ancien Testament la réalisation de la promesse faite par Dieu à nos premiers parents. Ensuite, nous allons examiner très très brièvement la théorie de la co-rédemption et nous allons voir certaines erreurs qui ont lieu à ce sujet. Et enfin, mes très chers frères, nous verrons comment, avec la Sainte Vierge, nous devons écraser la tête du serpent ancien. Prions alors. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
L'épître de la messe de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie, telle que Pie XII, sa sainteté Pie XII l'a promulguée, est tiré du livre de l'Ancien Testament qui a pour nom Judith, puisqu'il rapporte les hauts faits de cette sainte veuve Judith, qui a décapité le capitaine des Assyriens, Holoferne. C'est un texte qui, si nous ne faisions pas attention au livre dont il est tiré, pourrait nous sembler un texte de la liturgie néo-testamentaire fait exprès pour la Bienheureuse Vierge Marie. Le Seigneur vous a béni dans la puissance, puisque par vous il a réduit à néant nos ennemis. Béni êtes-vous, ma fille, par le Seigneur, le Dieu Très-Haut, plus qu'aucune autre femme sur la terre. Béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui vous a guidé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Il a rendu votre nom si glorieux que votre louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes. Ils se souviendront à tout jamais de la puissance du Seigneur. Devant les souffrances et la détresse de votre peuple, vous n'avez pas épargné votre vie, mais vous nous avez sauvés de la ruine sous le regard de notre Dieu. Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes la fierté d'Israël, vous êtes l'honneur de votre peuple, de notre peuple. Toutes ces paroles qui ont été dites à la Sainte Veuve Judith s'appliquent évidemment à la Très Sainte Vierge Marie. Et nous n'avons pas, l'Église n'a pas attendu la promulgation du dogme de l'Assomption au XXe siècle pour découvrir que ce texte correspondait tout à fait. Tout le monde a toujours su, tous les pères nous ont toujours enseigné que cela était à mettre en lien avec la Sainte Vierge. Maintenant, il se trouve que c'est un texte de l'Ancien Testament qui annonce et qui illustre si bien le Nouveau Testament qu'il n'est pas inintéressant de nous pencher un tout petit peu brièvement sur l'histoire de Judith. C'était au temps des ravages que Nabuchodonosor, qui a ruiné le royaume d'Israël, faisait. Et de par ses capitaines, puisque vous savez que c'était un grand roi qui était très belliqueux et qui a fait beaucoup de mal à nos pères. Les Hébreux. La ville de Béthulie était assiégée par un capitaine de ce roi qui s'appelait Holoferne. Judith, qui était une pieuse veuve de la tribu de Ruben, intercédait auprès de Dieu pour le peuple. Et probablement, si l'on représente la Sainte Vierge lors de l'incarnation de notre Seigneur, c'est-à-dire lors de la visitation, lors de sa visitation par Saint Gabriel, eh bien, si on le représente souvent dans son oratoire, dans un oratoire, c'est parce qu'il est fait mention que Judith était dans son oratoire en train de prier. C'est une allusion claire, disons, à ce texte de Judith. Judith, donc, était une pieuse veuve de la tribu de Ruben qui intercédait auprès de Dieu pour le peuple de sa ville et pour le peuple d'Israël en général. Elle jeûnait, nous dit l'Écriture, elle jeûnait, veillait, priait, se mortifiait avec une grande constance. Et puis, lorsque sa ville a été assiégée par ce terrible Holoferne, qui était un homme cruel, sanguinaire et très débauché, elle a été inspirée par le Saint-Esprit et elle s'est rendue avec sa servante auprès de ce capitaine des Assyriens en faisant mine de vouloir, disons, le séduire, disons, mais priant Dieu sous l'attente même de cet impie qu'il lui donne la victoire pour le profit de son peuple. Et cet homme a bu du vin et quand il fut assoupi, eh bien, comme vous le savez, elle lui a coupé la tête avec son épée et elle l'a rapporté à Ozias, qui était alors le chef de la ville de Béthulie. Ces paroles que nous avons lues et qui servent d'épître dans la messe d'aujourd'hui sont celles d'Ozias, donc le prince du peuple. Ce n'est pas le roi Ozias, c'est un prince, c'est un chef de la ville de Béthulie. Judith est une grande figure de la très sainte Vierge Marie, à laquelle ces paroles sont appliquées, comme nous l'avons dit, par la liturgie. Il est remarquable de voir que, dans l'Ancien Testament, deux femmes ont écrasé la tête d'un ennemi, un ennemi du peuple de Dieu. Vous avez Jaël, qui a percé la tête de Sisara avec un pieu, et vous avez Judith, c'est dans le livre des Juges, comme vous le savez, et vous avez Judith, dans le livre de Judith, qui a coupé la tête à Holoferne, assyrien, ennemi des Hébreux. Il est assez triste de voir dans les commentaires rabbiniques l'explication de la parole de Dieu à nos premiers parents, à propos de l'écrasement de la tête du serpent, où ils expliquent que, enfin il doit y avoir d'autres commentaires sans doute, mais en tout cas ceux que j'ai pu voir disent qu'ils expliquent que c'est pour cela que l'homme a naturellement horreur du serpent, parce que le serpent est un animal méchant qui se traîne, qui pique, etc. Ce n'est pas totalement faux, mais disons que, c'est vrai par un certain côté, mais disons que il manque pour le moins l'essentiel. Dans l'Ancien Testament, déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons des préfigurations de la très sainte Vierge Marie s'en prendre à la tête de ce qui est de toute évidence un serpent, ou des manifestations du serpent ancien, du diable. Holoferne est véritablement une figure du diable, de même que Sisara qui ruinait le peuple hébreu pendant la période des juges. L'offertoire de la messe d'aujourd'hui est tiré d'ailleurs de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc vous voyez, la liturgie veut que nous fassions le lien entre l'accomplissement, ou entre la promesse du Seigneur Dieu à nos pères, à propos de l'incarnation du Messie à venir, et la progressive réalisation, plutôt la préfiguration de sa réalisation, jusqu'à ce que celle qui avait été préfigurée, la très sainte Vierge Marie, apparaissent et par sa nativité divine, eh bien, la mise au monde de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, participe à cet écrasement de la tête du serpent. C'est une annonce que Dieu a faite à nos premiers parents, c'est une annonce et une promesse que le serpent qui avait vaincu la femme serait écrasé par la postérité de la femme. C'est la postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent, selon l'hébreu, et selon la Vulgate, c'est la femme elle-même qui écraserait la tête du serpent. Or, il se trouve que quand on lit les commentateurs, ils disent qu'il y a une évidence, disons, c'est une équivalence. C'est-à-dire que c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui, comme dit saint Paul, à la croix a défait le diable et l'a vaincu, et c'est bien la très sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, se tenant à la croix, a, dans son Fils, défait et vaincu le serpent. D'ailleurs, Judith interprète elle-même son acte. un petit peu plus loin, dans le même chapitre 13, au verset 27, elle dit, le Dieu d'Israël, elle s'adresse à Ozias, qui vient de louer le Seigneur Dieu, elle dit, le Dieu d'Israël à qui vous avez rendu témoignage en déclarant qu'il avait le pouvoir de se venger de ses ennemis, a coupé lui-même cette nuit, par ma main, la tête du chef de tous les infidèles. C'est bien la Bienheureuse Vierge Marie, par elle, que le Verbe s'est fait chair et qu'il a triomphé du diable à la croix. C'est Dieu lui-même qui a triomphé de son ennemi en utilisant la Très Sainte Vierge Marie, la main de Judith et bien sûr les entrailles très pures de la Très Sainte Vierge Marie pour mettre au monde celui qui est le glaive de Dieu, le glaive de la parole, celui qui tranchera la tête du serpent, celui qui par son pied, par son talon a écrasé la tête du serpent et serpent qui l'a mordu de telle sorte que le Messie a goûté la mort, il est mort. Il a été enseveli et descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, triomphant définitivement du serpent, qui peut-être, comme disent certains auteurs, avait cru qu'il avait triomphé de lui en le faisant mourir, en le piquant, en le mordant au talon, mais en réalité, il l'a définitivement écrasé par sa glorieuse résurrection. Nous voyons que le livre de Judith doit être très chéri, comme tous les autres livres, évidemment, de la Bible, par les chrétiens, parce qu'il y a là une illustration merveilleuse de l'Évangile. Tout l'Ancien Testament est une explication, est une préfiguration, mais aussi une explication du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est relativement bref, surtout l'Évangile est relativement bref par rapport au texte de l'Ancien Testament. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, dans le temps de l'Ancienne Alliance, tout pointait vers le Messie. Lorsque le Messie est venu, nous n'avons pas abandonné l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament s'est avéré un commentaire extraordinairement riche de toute la geste du Messie, de notre Dieu, le Fils éternel de Dieu incarné pour nous les hommes et pour notre salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a quelque chose de merveilleux dans ce récit, quelque chose de terrible évidemment, nous ne devons pas nous complaire dans la dureté, dans le sang bien sûr, mais il y a quelque chose de merveilleux en voyant cette sainte veuve qui préfigure la Très Sainte Vierge Marie, qui est toute seule. Vous voyez, la veuve a perdu son mari, la Vierge n'a pas de mari. Elle sort de son oratoire, après avoir jeûné, prié, intercédé, et nous savons que la Très Sainte Vierge Marie faisait partie des justes de l'Ancien Testament, qui désiraient l'avènement du Messie, et qui intercédaient pour le peuple de Dieu, qui s'enfonçait tout doucement en lui-même, et dans la satisfaction d'avoir vaincu et triomphé de sa propre idolâtrie, nous voyons que la Très Sainte Vierge Marie est préfigurée par Sainte Judith, de telle sorte que Judith, dont le nom signifie la juive par excellence, eh bien la Très Sainte Vierge Marie est véritablement la gloire de Jérusalem, la fierté d'Israël, l'honneur de notre peuple, le Verus Israël, elle est véritablement la seule Judith qui a triomphé, par laquelle Dieu a triomphé du serpent. Et un petit peu plus loin, il est dit, donc dans cet épître, « Devant les souffrances et la détresse de votre peuple, vous n'avez pas épargné votre vie, mais vous nous avez sauvés de la ruine sous le regard de Dieu. Cette subvenisti ruinée ante conspectum dei nostri. » Comment la Sainte Vierge n'a-t-elle pas épargné sa vie? Nous pourrions dire beaucoup de choses là-dessus, mais nous dirons simplement certaines choses en essayant de garder la mesure. C'est-à-dire que la Très Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle a dit à Saint Gabriel Archange « Comment se fera-t-il ? Comment cela se fera-t-il ?» Comme vous le savez, elle n'a pas douté, elle n'a pas demandé à Dieu comment il s'y prendrait par curiosité. Elle a, en quelque sorte, protesté, étant donné que c'était une Vierge très pure, elle a protesté en disant « Je vais perdre mon statut », nous en avions parlé une autre fois si vous vous souvenez, « Je vais perdre mon statut glorieux dans la mesure où je pourrais passer pour, finalement, une dépravée qui a un enfant dans la nature. » Vous voyez, d'ailleurs, les Juifs ne se sont pas privés et ne se privent pas aujourd'hui, les blasphémateurs, d'insulter notre très sainte reine. La Sainte Vierge elle-même n'était pas dépourvue de respect humain, ou de sens de l'ordre, plus précisément du bon respect humain, ou du sens de l'ordre, pour dire ah « ben c'est très bien, c'est merveilleux, ça fera quelque chose dans ma vie, ça fera une péripétie ». Non, comment cela se fera-t-il? Il y a un ordre. Il y a un commandement qui demande justement la peine de mort dans l'Ancien Testament pour les filles qui se conduisent mal. Donc, Comment cela va-t-il se faire? Comment, quel miracle Dieu va-t-il faire pour conserver ma dignité? Vous voyez, d'une certaine manière, elle n'a pas épargné sa vie. Elle n'a pas épargné son honneur pour faire de nous les enfants de Dieu. Vous voyez, d'une certaine manière, nous, bien sûr, nous l'honorons, nous ne songeons absolument pas, d'ailleurs nous connaissons l'histoire, nous connaissons comment dans l'Évangile cela s'est passé, la naissance virginale de notre Seigneur. Mais aujourd'hui encore, il y a des gens qui l'insultent, qui l'injurient. Vous voyez, il y a donc ceux dont j'ai parlé, il y en a encore d'autres qui, se moquant éperdument de l'Évangile et de leur baptême, disent toutes sortes de choses aberrantes et monstrueuses sur la Très Sainte Vierge Marie, qu'il n'est pas digne à dessein d'entendre. Mais enfin, c'est toujours la même chose, vous voyez, des insultes, des moqueries. La Très Sainte Vierge Marie n'a pas épargné sa vie. Vous voyez, elle n'a pas épargné sa vie, nous pourrions dire que sa vie, comme si saint Paul disait que ma vie, c'est le Christ, et mourir est un gain. Alors, la Sainte Vierge pouvait dire, ma vie, c'est le Christ, encore plus, puisque c'est sa mère. Vous voyez, sa vie, c'est le Christ. Et elle n'a pas épargné sa vie. Alors, attention à ces gens qui disent que la Très Sainte Vierge Marie a offert son fils en sacrifice. Celui qui a offert son fils en sacrifice à lui-même, c'est Dieu le Père. La Très Sainte Vierge Marie a consenti à ce sacrifice. Donc, on peut dire qu'elle est mise au bénéfice de tous les mérites qui sont réservés à ceux qui offrent à Dieu le sacrifice de son Fils. Nous-mêmes, et vous, mes très chers frères, mes très chers frères et sœurs, lorsque vous offrez en union avec le prêtre le sacrifice à l'autel, vous bénéficiez aussi de cette communion, de cette offrande. C'est dit dans la liturgie. Donc, faisons très attention, elle n'est pas le sacrificateur féminin qui a offert le Fils. On s'approche de l'hétérodoxie, peut-être même de l'hérésie. Faisons très attention. Néanmoins, il est certain que la Très Sainte Vierge Marie n'a pas épargné son Fils, n'a pas épargné sa vie, comme le Père n'a pas épargné son Fils. Elle a donné à Dieu ce Fils qu'elle a reçu, sachant que Saint-Siméon lui avait dit qu'elle recevrait un glaive, donc qu'un glaive lui transpercerait le cœur. Vous vous souvenez ? Elle n'a pas épargné sa vie. Elle aurait pu dire à Saint Gabriel, par impossible évidemment, « Je veux une vie tranquille, je veux marier, avoir des enfants, être une chrétienne comme les autres, je veux pas de toutes ces péripéties. » Elle n'a pas épargné sa vie. Vous voyez, c'est mutatis mutandis. Pensez à Sainte Bernadette, d'une certaine manière. Je ne fais pas la comparaison, mais c'est une comparaison qui se tient quand même. Sainte Bernadette, lorsque elle a été choisie pour recevoir la révélation de l'Immaculée Conception, telle que la Sainte Vierge lui a dite, eh bien, on peut dire que, d'une certaine manière, elle a été extrêmement favorisée, mais d'un autre côté, sa vie a été ruinée. Oui, c'est pas comme les voyantes du XXe siècle d'apparitions douteuses qui finissent par se marier avec des milliardaires ou des voyants qui se marient avec des top modèles, etc. Là, c'est on sent qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Non, lorsque Dieu vous choisit, il vous ruine la vie, il ruine votre vie. Vous voyez, lorsque Dieu a choisi la petite Bernadette, Sainte Bernadette, d'une certaine manière, il l'a empêché de connaître le bonheur tel que les mondains, tel que les hommes, même tel que les laïcs peuvent le concevoir. Vous voyez, elle a reçu cette révélation, elle a beaucoup souffert à cause de cela, parce qu'on ne la croyait pas. Et ensuite, quand on l'a cru, elle est devenue religieuse, où elle a beaucoup souffert dans son couvent, puisqu'elle était très méconnue, elle était prise pour une orgueilleuse, alors qu'elle était véritablement humble. Et elle est morte assez jeune, dans les souffrances et dans la douleur. La Sainte Vierge lui avait dit, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Donc vous voyez, d'une certaine manière, les saints, les saintes, montrent comment la Sainte Vierge, même si c'est une façon qui est presque un peu triviale de parler, parce que la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge, c'est la plus sublime des créatures, mais enfin, c'est quand même une vraie créature. Donc, comment la Sainte Vierge, en quelque sorte, n'a pas épargné sa vie? Sa vie a été ruinée. Alors, Judith, Sainte Judith, quand elle est revenue de chez Holoferne avec la tête de ce capitaine dans son sac, évidemment, elle a en quelque sorte repris le cours de sa vie pénitente, mortifiée et pieuse, bien entendu. La Très Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle a reçu Saint Gabriel, l'archange, a commencé, si l'on peut dire, elle était déjà la Très Sainte Vierge Marie, elle était déjà l'Immaculée Conception, mais elle a commencé une vie de souffrance. Et nous y reviendrons dans un instant. Vous voyez, mes très chers frères, le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie est le dernier que l'Église promulguera avant la fin des temps. ne serait-ce que parce qu'il y a quand même quelques problèmes dans les fonctions du magistère suprême, papal, je veux dire, aujourd'hui. Et puis, il faudrait se méfier de, comme ça a déjà été fait par des papes autoproclamés, disons, des gens qui voudraient absolument voir que dire que le dernier dogme, ce serait le dogme de la corédemption, Marie corédemptrice. Rédemptrice avec notre Seigneur. Non pas avec au sens de participation, mais avec au sens de parallèle. Et ça, si c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, c'est non seulement quelque chose que nous devons rejeter avec horreur, mes très chers frères, que Dieu nous garde de cette chose, car cela serait la ruine entière de la doctrine de la rédemption, en attribuant à celle-ci non pas une, mais deux sources. Ce qui serait un nouvel évangile que saint Paul nous prévient être de nature satanique. Si nous avons deux causes de rédemption, une cause, notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne le conteste, et une autre cause parallèle et aussi efficace et indépendante, quoique unie, je veux bien, la très sainte Vierge Marie, nous sommes là face à un autre évangile. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, et c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Pierre qui le dit dans les Actes des Apôtres, et il se trouve que c'est définitif. Toute association avec notre Seigneur est une participation à ses mérites, une participation à sa personne, une participation à sa divinité, une participation à son ministère. La doctrine de la participation est une doctrine très, très ample, complexe dans le christianisme, et c'est ça qui fait, disons, qui fonde la vie chrétienne. Il n'y a aucun problème, la très sainte Vierge Marie, à participer à notre salut en union avec notre Seigneur d'une façon qui est inimitable par personne sur terre, c'est vrai. Qu'elle soit co-rédemptrice, non. Parce que sinon, la cause de notre rédemption se double et elle n'est plus unique. Et on peut être sauvé par la très sainte Vierge Marie en oubliant le Christ, ce qui est non seulement une aberration, mais ce qui est une hérésie, ce qui est de l'antichristianisme, ce qui est du satanisme, en réalité. Pourtant, une fois que nous avons dit cela, pour être très clair, pourtant nous devons ajouter que la bienheureuse Vierge Marie, elle se tenait debout, stabat mater, au pied du calvaire. Un glaive, nous l'avons dit, lui a transpercé le cœur. Et c'est le grand signe. Ce grand signe, cette femme, environnée de 12 étoiles, revêtue du soleil. La très sainte Vierge Marie occupe dans la réalisation de notre salut une place absolument unique, puisqu'elle est la mère de Dieu. Elle est la mère du Fils éternel de Dieu. Les conciles l'ont définie comme étant la mère de Dieu, pas simplement la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, mais la mère de Dieu, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, est consubstantiellement uni à la divinité du Verbe. Il n'y a qu'une seule personne de nature. Vous voyez, il n'y a pas deux personnes, comme le croient certains hérétiques, il n'y a pas une nature, etc. Il y a une personne de nature. Et ces deux natures sont hypostatiquement unies ensemble, de telle sorte qu'on ne peut pas les dissocier et que l'on ne doit pas les distinguer. Beaucoup d'implications dans cela, mais nous restons dans notre sujet. Il se trouve que la très sainte Vierge Marie est la mère de notre Seigneur et grand Dieu Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien entendu, loin de nous de lui contester le moindre, disons, le moindre degré de gloire d'être celle sans laquelle, sous un certain rapport, nous n'aurions pas pu être sauvés, puisque si elle n'avait pas été la mère de Dieu, nous n'aurions pas eu le Fils éternel de Dieu incarné. Par impossible, évidemment. Mais cela dit, nous devons bien comprendre que la très sainte Vierge Marie est le miroir sans tache dans lequel se reflète la totalité de la divinité. Elle est ce miroir sans tache, elle n'est pas ce qu'elle reflète. Elle est totalement environnée du soleil, elle est recouverte du soleil, elle est revêtue du soleil, elle a la lune sous ses pieds, elle a sur la tête une couronne de 12 étoiles. C'est vrai, mais en elle-même, qu'est-elle ? Du point de vue anthropologique, si j'ose dire, c'est une enfant d'Israël, c'est une vraie créature, c'est une femme. Et d'un autre point de vue, c'est un pur néant. La très sainte Vierge Marie, qui a été élue de toute éternité pour être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, la mère de Dieu, est un pur néant de concupiscence, d'amour propre. C'est pour cela qu'elle est dite avoir été préservée du péché originel. À aucun instant de son existence, elle n'a connu le péché originel, donc la concupiscence. Pour pouvoir, elle a été préservée par les mérites anticipés de son fils, pour pouvoir être totalement cette mère très pure dont le Sauveur avait besoin pour s'incarner. Elle est un pur néant de tout ce que nous sommes, mes très chers frères. Égoïste, plein de nous-mêmes, rebelle, entiché de nous-mêmes, que sais-je, et plein d'autres choses encore, en proie à la triple concupiscence, à l'amour propre, que sais-je, elle est un néant de tout cela. Alors vous allez dire, mais elle est positivement tout le reste. Qu'est-ce qu'elle est tout le reste? Qu'est-ce qui nous caractérise? Nous sommes méchants. Enlever toute la malice dans l'homme qui a été régénéré par le baptême, enlever la malice dans l'homme qui est irrégénéré, il reste encore un fond de malice. Enlever toute la malice, enlever entièrement toute la malice d'un homme qui a été baptisé, que reste-t-il? Il ne reste que notre Seigneur Jésus-Christ. La très sainte Vierge Marie n'a jamais été touchée par la malice du venin du péché originel, le venin du serpent. Enlever conceptuellement tout ce qui nous caractérise dans la très sainte Vierge Marie, que reste-t-il? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et il reste en elle d'une façon si suréminente qu'il s'y incarne, qu'il en est, qu'il naît d'elle, et qu'à la fin de sa vie, la vie de sa mère, il la ressuscite et la fait monter au ciel, il la couronne au ciel. Voilà ce qu'est la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, à strictement parler, nous disent les commentateurs, n'est pas cette femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. C'est l'Église en réalité. Et la preuve en est, alors vous sans sursauter mes très chers frères, lisez la suite du passage dans l'Apocalypse, le 12e chapitre de l'Apocalypse, il dit « Et elle était dans les douleurs de l'enfantement. La très sainte Vierge Marie a enfanté sans douleur, car elle est sans péché originel. » Et pourtant, vous allez dire, le début correspond à la très sainte Vierge Marie, la fin, elle ne correspond pas à la sainte Vierge Marie, parce qu'on ne peut pas dire sans impiété que la sainte Vierge a enfanté notre Seigneur dans les douleurs. C'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église, nous disent les commentateurs, alors tout le monde, tous sont catégoriques et unanimes, l'Église enfante dans la douleur du martyr, dans la douleur de la pénitence, dans la douleur de l'ascèse, les membres du corps mystique du Christ. Une fois que l'on a dit cela, écoutons notre Père Saint-Augustin qui nous dit « Personne n'ignore que cette femme ne figure la très sainte Vierge Marie aussi bien que l'Église, que l'une et l'autre ont enfanté le chef et les membres. » Il y a donc évidemment une parfaite adéquation de ce signe que Saint Jean a vu dans l'Apocalypse avec la très sainte Vierge Marie. Mais c'est parce que la très sainte Vierge Marie, et c'est là où nous allons donner, disons en quelque sorte, la clé de la réfutation de ce faux dogme de la co-rédemption, la très sainte Vierge Marie s'identifie avec l'Église. Elle est distincte parce que l'Église, c'est le corps mystique du Christ, et la très sainte Vierge Marie, c'est avant tout une personne humaine. Donc, on ne mélange pas les deux. Mais il ne faut pas les dissocier. Notre Père Saint-Augustin nous dit « Personne n'ignore que cette femme ne figure aussi la très sainte Vierge Marie aussi bien que l'Église. » Donc, Saint Jean, dans l'Apocalypse, voit l'Église. Et l'Église, ce n'est pas rabaisser la très sainte Vierge Marie de dire que l'Église est semblable à une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est revêtue du soleil, c'est-à-dire qu'elle est revêtue par son divin époux du manteau de sa divinité. L'Église est une sainte, pure, immaculée. Elle ne peut pas connaître de tâche. Elle est féminine, donc, c'est une femme. L'Église n'est pas représentée par un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est ordonnée à l'homme suprême, qui est le Christ, donc c'est une femme. Elle est revêtue du soleil, parce qu'il faut que nous, comme dit Saint Paul, revêtez-vous du Christ. Et elle a donc la lune sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle a vaincu toutes les jouissances et toutes les circonvolutions du monde sublunaire, En fait, elle triomphe, elle piétine elle piétine la lune. Pas la piétine méchamment, pas qu'elle la méchamment, passionnellement. C'est-à-dire qu'elle l'a surmontée, elle surmonte la lune. Tout ce qui est en dessous de la lune, dit Aristote, et pour une fois il a raison, tout ce qui est en dessous de la lune est caractérisé par la production et la génération et la corruption. C'est le lieu, c'est le temps, c'est le lieu du temps. C'est, si j'ose dire, c'est le lieu de l'espace, c'est le lieu de l'état de voie. C'est le lieu de l'incertitude. Tant que nous sommes dans l'état de voie, nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine de la part de Dieu. Elle a la lune sous les pieds. C'est-à-dire que si nous sommes dans l'Église, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde-ci, il ne relève pas des ténèbres de ce monde-ci. Et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Pourquoi? Parce que ces 12 étoiles sont, selon les commentateurs, les 12 apôtres qui couronnent l'Église, qui sont la couronne de l'Église. Il y a 12 apôtres, 11 apôtres, puisque Judas a été rejeté, et il y a Saint Matthias qui a remplacé Judas, et il y a, comme dans les 12 tribus qui étaient 13, eh bien, il y a aussi, parmi ces 12 apôtres, il y a Saint Paul qui est un véritable apôtre. Donc, vous voyez, mes très chers frères, l'Église est glorieuse comme la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie est cette personne humaine qui nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Et l'Église est ce corps mystique du Christ, cette épouse du Christ, qui lui enfante des enfants dans la douleur. La très sainte Vierge Marie et l'Église sont équivalentes. Elles sont différentes, distinctes, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ce que je veux dire, et ça, de nombreux, nombreux sont ceux qui le disent, la très sainte Vierge Marie n'est pas la mère de l'Église. Elle est, en quelque sorte, l'archétype de l'Église. Je vous renvoie au catéchisme de l'oratoire où c'est écrit. La très sainte Vierge Marie n'est pas la mère de l'Église. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a le Christ, l'Église et la mère. Un petit peu comme si la Sainte Vierge, excusez-moi, mettait la belle-mère de l'épouse du Christ qui est l'Église. Il y a un mystère ici. L'Église et la très Sainte Vierge Marie sont une même chose. C'est pour cela que l'Église ne peut pas être corrompue. L'Église ne peut pas être, avoir comme un chef, un hérétique ou quelqu'un qui va à l'encontre de la foi. L'Église, comme la très Sainte Vierge Marie, est à la fois la fille, l'épouse le corps mystique du Christ. Elle est vierge et mère. La très sainte Vierge Marie, dit la liturgie, a été créée, a été formée, a été créée par celui qu'elle a enfanté. L'Église qui enfante au Christ ses membres est aussi celle qui a enfanté la tête, puisque l'Église, d'une certaine manière, existait sous une forme préfigurée par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que l'Église s'appelle aujourd'hui toujours le peuple d'Israël et que nous sommes, mes très chers frères, revêtus de la dignité israélitique. C'est ça qui fait que nous sommes chrétiens. Et ça seul, en réalité, par le baptême. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de merveilleux quand nous avons quitté ce dogme, finalement, pélagien, monstrueux, païen de la co-rédemption. Nous nous apercevons que la très sainte Vierge Marie est cette mère que Dieu nous a donnée en la personne de Saint Jean, et qui, sous un certain rapport, ou sous la forme de l'Église, si j'ose dire, nous enfante dans la douleur. Elle a enfanté son Fils unique, notre Seigneur, pas dans la sérénité, puisqu'elle n'était pas soumise à la condamnation, la malédiction d'Ève, notre première mère Ève, mais sous sa forme d'Église, en quelque sorte, en tant que l'Église, en tant qu'elle n'est pas distincte de l'Église, elle nous enfante dans la douleur. C'est-à-dire que, et comme la mère de notre Père, eh bien, Sainte Monique, je veux dire, eh bien, elle a mis au monde son Fils, en tant que chrétien, dans la douleur. Elle a intercédé pour lui, elle a pleuré, elle a veillé, elle a jeûné, et de telle sorte que vous connaissez la parole de Saint Ambroise, le Fils de tant de larmes ne peut pas... ne peut pas ne pas être sauvé. Et saint Augustin est devenu justement ce que nous savons. La bienheureuse Vierge Marie, mes très chers frères, n'est pas co-rédemptrice. Elle est bien plus que cela. Elle est la rachetée par excellence. Elle est la sauvée par excellence. Elle est la bien-aimée de Dieu par excellence. Et nous, en elle qui ne se distingue pas de l'Église. Cela ne sert à rien de faire de la Très Sainte Vierge Marie une sorte de déesse qui nous rachète parallèlement, et donc s'il y a parallèle, il y a aussi concurrence avec son Fils. La Très Sainte Vierge Marie est, si j'ose dire, le Christ dans lequel nous sommes sauvés. Il y aurait beaucoup de choses à dire. La Très Sainte Vierge Marie est la mère de notre Seigneur, mais elle est sa fille aussi. La Très Sainte Vierge Marie est la mère de notre Seigneur, l'Église est notre mère, et en nous donnant la Très Sainte Vierge Marie comme mère, notre Seigneur veut que nous soyons sauvés dans l'Église et par l'Église. Si vous voulez, nous dirons que la Très Sainte Vierge Marie est rédemptrice, dans le sens où le Christ ne sauve personne sinon dans l'Église, qui n'est autre que cette femme revêtue revêtue du soleil, qui n'est autre que la Très Sainte Vierge Marie. Mais elle n'est pas co-rédemptrice comme son Fils est notre Rédempteur. Il n'y a qu'un seul Rédempteur. Il n'y a qu'une seule voie pour aller au ciel. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été offert à Dieu. Il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La Très Sainte Vierge Marie, signifiée par la bienheureuse Judith, reçois cette louange. Béni soit le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, qui vous a guidé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Mes très chers frères, l'Église fait tout ce que le Verbe incarné fait. En triomphant du diable, en triomphant des passions, en triomphant de la concupiscence, en nous, par la grâce qui nous est donnée dans l'Église et dans l'Église seule, elle participe à la passion rédemptrice du Christ. Nous ne sommes pas des atomes errants dans le monde, connectés d'une manière ou d'une autre au Christ, et qui recevons des grâces directement de lui. Nous recevons la grâce sanctifiante, qui est la grâce qui sauve, dans l'Église. En dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé. Pourquoi ? Parce que ce n'est que dans l'Église qu'on reçoit la grâce sanctifiante. Encore faut-il la recevoir, etc., bien entendu. Mais enfin, on ne peut pas recevoir la grâce sanctifiante en dehors de l'Église. C'est ce qui explique pourquoi saint Alphonse, par exemple, dit que nous ne recevons aucune grâce sinon par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Une fois qu'on a compris que la Très Sainte Vierge Marie et l'Église sont un même mystère in divinis, pour ceux qui viennent d'arriver, il faudra écouter ce qui a été dit avant, une fois qu'on a compris que la Très Sainte Vierge Marie et l'Église sont un seul et même mystère in divinis, on comprend que on ne peut recevoir aucune grâce que par l'Église ou par la Très Sainte Vierge Marie. Mais cette grâce, c'est la grâce du Christ. C'est la grâce salvifique. C'est la grâce qui nous donne de devenir un avec celui qui est le bien-aimé, la vie même de la Très Sainte Vierge Marie. Celui qui est le chef de l'Église, et non seulement son chef, mais qui est la vie de ses membres. En dehors de l'Église, on ne peut pas être sauvé. On ne reçoit aucune grâce que par l'intermédiaire de la Bienheureuse Vierge Marie. Ce sont des expressions équivalentes, distinctes mais équivalentes. Comment la Très Sainte Vierge Marie écrase-t-elle la tête du serpent? Comment coupe-t-elle la tête d'Holoferne? Comment enfonce-t-elle un pieu dans un clou, comme le clou de la crucifixion de notre Seigneur, dans la tête de l'infâme Sisara? Eh bien, en nous faisant que par la grâce, nous triomphions de nos passions, que nous triomphions du diable et nous triomphions de la concupiscence, qui est véritablement le diable intérieur. C'est comme cela que l'Église nous sauve. C'est comme cela que la Très Sainte Vierge Marie nous sauve. Je n'hésite pas à le dire une fois que nous avons clarifié les choses. Elle nous sauve comment? En nous appliquant les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis en nous appliquant, ce n'est pas exclusif du Saint-Esprit qui est le véritable applicateur en réalité. La Très Sainte Vierge Marie, véritablement, c'est comme l'Église. Elle ne peut pas ne pas être le corps mystique du Christ. Elle ne peut pas être l'organe même, si j'ose dire, de la miséricorde divine. La Très Sainte Vierge Marie n'est pas quelqu'un qui existe en dehors du Christ, puisqu'elle a été créée par lui pour être sa mère. Elle n'est pas une déesse, elle n'est pas, bien entendu, loin de là, elle est ce pur néant par lequel Dieu, par la main duquel, si j'ose dire, Dieu a coupé la tête d'Holoferne, a coupé la tête de notre moi. C'est pour cela que la doctrine de la Bienheureuse Vierge Marie, que nous honorons aujourd'hui, dont nous honorons l'Assomption aujourd'hui, est une doctrine qui requiert, de notre point de vue, tous les efforts dont nous sommes capables avec l'aide de Dieu. C'est par la main de Judith que Dieu a voulu sauver son peuple. Évidemment, vous allez dire, dans d'autres cas, il a envoyé un ange pour tuer les Assyriens. C'est vrai. Mais alors, ça n'a pas un rapport avec la Très Sainte Vierge Marie. Ça montre que Dieu, les grâces qu'il donne, pas la grâce sanctifiante, mais les grâces qu'il donne, il les donne à qui il veut et comme il le veut. Maintenant, il se trouve que nous parlons ici de la Très Sainte Vierge Marie, donc de la grâce sanctifiante. Il nous faut, comme la Très Sainte Vierge Marie, ne pas épargner notre vie sous le regard de Dieu pour triompher de l'ennemi de nos âmes. Il faut que nous combattions rusés comme des serpents et doux comme des colombes. Elle a été douce comme une colombe, c'est-à-dire qu'elle priait, elle a été très, quand il faut lire tous les chapitres qui parlent de la façon dont elle s'est comportée dans le camp de cet impie, elle s'est comportée d'une façon très discrète, très modeste pour une personne qui venait offrir ses charmes. Elle s'est comportée d'une façon très modeste, et pour cela que d'une certaine manière, d'une manière très certaine, Dieu l'a favorisée, et d'une certaine manière, ça ne déplaisait pas à se débaucher de voir quelqu'un qui se tenait un petit peu venir le rencontrer. C'est pour cela qu'il était mis en confiance, en quelque sorte. Mettons en confiance nos passions pour mieux, mes très chers frères, les détruire, pour mieux les dompter, plus précisément. On ne les détruira jamais vraiment, mais on les dompte, disons. Vous voyez ? Comment les mettre en confiance? Eh bien, en étant très calme, en n'utilisant pas la passion contre notre moi, contre nos passions. Vous voyez? Si nous nous disons, ah, je m'en veux, j'aimerais être un saint, ou qu'est-ce que je me déteste quand je me regarde dans la glace, je me donne des claques parce que je ne suis pas encore saint. Vous voyez, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que utilisant la passion contre nos passions, nous sommes toujours passionnés. Vous voyez? Et puis c'est de l'amour propre. Soyons dans le calme vis-à-vis de nos passions. Apparaissons comme ne les sollicitant pas. Elles s'apaiseront, parce qu'elles ne sont jamais que nos esclaves, et nous pourrons, même si ce sont nos ennemis, et nous pourrons les maîtriser. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut bien s'arrêter, mes très chers frères. La Bienheureuse Vierge Marie, eh bien, sa grandeur, nous dit un auteur, sa grandeur se mesure à son humilité et à son rabaissement. Pensez que le Christ ne l'a jamais appelée sa mère. Qu'il l'a toujours appelée femme, en tout cas dans l'Évangile. Même sur la croix, alors que le Christ était transpercé de clous et qu'il venait de subir la crucifixion, qu'il venait de subir la flagellation, et qu'il était couronné d'épines et abreuvé de fiel, il lui a dit femme, voilà votre fils. J'ai toujours à l'esprit ces paroles de Bossuet qui dit que ça a été l'épreuve suprême, et si la Sainte Vierge a souffert le martyr, ce n'est pas tellement parce qu'elle a vu son fils être crucifié par les Romains. C'est parce que son fils, même là, dans cette souffrance inouïe, l'a appelée femme et l'a donnée pour mère, certes à son disciple bien-aimé, elle ne lui a pas donné pour mère à Judas, mais à son disciple bien-aimé qui était là, mais il lui a même ôté la consolation d'être la mère du fils de Dieu. Elle l'a toujours été, bien entendu, mais enfin, elle est devenue la mère de Saint Jean, par testament de notre Seigneur. Souvenons-nous-en, mes très chers frères, lorsque nous serons un petit peu chatouillés dans notre amour propre. Pensons à la très sainte Vierge Marie, qui a mérité d'être ressuscitée et assomptionnée au ciel, après tout ce qu'elle avait souffert, de la part des hommes, certes, mais surtout de la part de son fils, non pas par méchanceté, mais pour l'éprouver, pour nous dire, pour que son fils puisse nous dire, « Regardez comme j'ai traité ma mère, durant le temps, regardez comme je l'ai glorifié. Ne pensez pas, comme dit saint Paul, que vous triompherez avec lui, que vous serez glorifié avec lui, si vous ne souffrez pas, si vous n'êtes pas humilié avec lui. Le Christ a couronné aujourd'hui dans la gloire sa très sainte mère, notre reine, la très sainte Vierge Marie. Écrasons en elle, écrasons avec elle, par son intercession, la tête du serpent de l'amour propre, de l'amour désordonné de soi-même, de la concupiscence, mes très chers frères, écrasons cet infâme serpent, décapitons cet infâme Holoferne, clouons la tête de cet infâme Cisara que nous sommes, et alors, mes très chers frères, elle nous reconnaîtra pour ses enfants, et alors, véritablement, membres de l'Église, nous enfanterons dans notre cœur notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Sauveur. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.